Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
What time is it?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha. Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 578 du podcast Touchdown Actuel. À Mathéi, très heureux de vous retrouver en ce mardi matin pour débriefer le deuxième week-end des playoffs NFL. Oui, j'ai vu Raphaël, il a fait un petit mouvement de tête mardi matin. Ouais, on est bien mardi matin, bon, on va dire. Bonjour Raphaël, comment ça va?
Salut Alain, salut à tous. Et bah écoute, ça va, je vais pas le cacher, un petit peu déçu par ce Divisional Round qui est pas ça, le meilleur qu'on ait eu.
On n'a pas vraiment eu de match à suspense en fait.
Ouais, oui. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense et ouais.
Tu vois, surtout sur les scénarios ces dernières années, j'avais l'impression qu'on avait quand même quelques matchs qui se jouaient dans les dernières minutes.
J'avais aussi ce souvenir là, ouais.
Donc bon, ça a été un peu moins flamboyant. On a déjà débriefé le Jaguars Chiefs et le Eagles Giants dans le fauteuil avec Lucas Vola, et vous avez pu écouter ça en podcast sur notre flux aussi, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite évidemment à le faire. Avec toi Raphaël, on va parler des deux autres matchs qui se sont donc joués dimanche, les Bills contre les Bengals et les 49ers contre les Cowboys. Je m'embrouille parce que c'est les équipes qui vont rejoindre. On connaît les affiches des finales de conférence, on peut vous spoiler évidemment les résultats. Ce sera donc les Bengals qui rejoignent les Chiefs et les 49ers qui rejoignent les Eagles. Comment on en est arrivé là? C'est notre programme du jour et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Raphaël, avec le Bills-Bengals. C'était le premier match, il s'est joué à 21h dimanche, 27-10 pour Cincinnati, et forcé de constater qu'il n'y a pas vraiment une match, les Bills n'ont jamais semblé en mesure d'inquiéter Cincinnati. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné.
Ah bah oui, je trouve ton impression fort juste. Comme toi, on a senti très rapidement que les Bengals prenaient le match en main. Ils menaient 14-0 à la fin du premier quart. Et à aucun moment, on a vraiment senti Buffalo en mesure de revenir. En attaque, c'était pas très juste. En défense, ça se laissait faire. Enfin, on développera après, on y reviendra. Mais en tout cas, effectivement, sur le constat général, constat global, oui, on a vu des Bills incapables de revenir. Et effectivement, on a très rapidement eu le sentiment que Cincinnati allait tranquillement gagner ce match, sans trop transpirer, j'ai envie de dire.
Ouais, parce qu'il y a 14-0, tu le disais rapidement, on se dit, oh, ça y est, ça va tourner à la boucherie. Finalement, Buffalo marque, revient à 14-7 dans le deuxième quart, mais Cincinnati répond tout de suite avec un field goal pour se redonner 10 points d'air. Juste après la mi-temps, Buffalo marque à nouveau et revient à 17-10, donc à nouveau un touchdown d'écart. Mais là encore, Cincinnati répond directement avec un touchdown, un punt des Bills et un field goal, et donc ça fait 27-10. Et le suspense est tué, d'autant que la défense ensuite a complètement muselé la fin de match. C'est ça ressemble à un échec quand même, je trouve, pour l'attaque de Buffalo. On a un Josh Allen qui a 25 sur 42, 265 yards, aucun touchdown, une interception, 325 yards seulement au total pour cette attaque, 4 sur 12 en troisième tentative, un jeu au sol qui a été limité à 3,3 yards par course. C'est un très bon match défensif, Raphaël, pour les Bengals, mais quand même, c'est dur de ne pas voir que Buffalo n'a pas répondu aussi au rendez-vous, quoi.
Ouais, Buffalo n'était pas au rendez-vous, c'est clair net. Alors, là où je serais peut-être un peu moins d'accord avec toi, c'est oui, l'attaque n'a pas été bonne et pas au niveau de ce qu'on attendait. On a dit que ça a été transparent globalement. Le jeu au sol a continué à être très moyen, voire médiocre. Et Josh Allen n'a pas été bon. Donc ça fait beaucoup de choses pas positives dans cette attaque, sans aucun doute. Maintenant, moi, sur ce match, je trouve que c'est aussi la défense qui a été un gros problème. C'est que cette défense-là, on en attend beaucoup chaque saison. Sur le papier, c'est une des unités, une des escouades les plus complètes de la ligue. Et je trouve que depuis trois saisons, en play-off, cette défense ne sort jamais de gros matchs. Et en fait, bien sûr, le quarterback est prépondérant en NFL, mais... Je trouve que Josh Allen, finalement, en playoff, ne peut pas non plus se reposer sur des grosses perfs de sa défense. Si on repense aux deux saisons précédentes, les Bills, à chaque fois, prennent plus de 30 points contre les Chiefs et la défense est incapable de les arrêter, ils perdent là-dessus. Ouais. Et là, j'ai envie de te dire que même avec un Josh Allen un peu meilleur, je suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose parce qu'en fait, la défense des Bills était absolument incapable d'arrêter l'attaque des Bengals. Globalement, les Bengals ont fait à peu près ce qu'ils voulaient en attaque. Joe Mixon a mangé le chrono avec des superbes courses. La défense des Bills était incapable de stopper dans le flat l'attaque des Bengals. Donc je te rejoins que l'attaque n'a pas été bonne et pas au niveau attendu, mais je trouve que la défense a été encore plus décevante en fait.
C'est une plus grosse faillite pour toi. Ce que je peux comprendre en effet, alors il y a l'absence de Von Miller mais qui n'excuse pas tout, je suis assez d'accord avec toi en fait, sur le fond t'as raison, parce qu'ils prennent plus de 400 yards, ils prennent 6 sur 10 en troisième tentative, donc ils sont même pas efficaces là-dessus, ils prennent plus de 5 yards par course au sol. Donc en effet, c'est problématique de partout. Il y a des trous en couverture où ils se font encore quand même plutôt manger. C'est quoi ? C'est un problème de plan de jeu ou c'est un problème d'exécution ?
De plan de jeu, dans un premier temps, moi j'ai envie de dire. Plan de jeu parce que j'en ai parlé. Enfin, je trouve que les trous laissés en défense m'ont plus fait penser que c'était des zones qu'ils choisissaient de ne pas spécialement défendre. J'ai trouvé qu'ils essayaient beaucoup de défendre la profondeur sur des tracés longs, mais alors les petits tracés courts sur les côtés, bah, il n'y avait quand même pas grand monde pour aller les chercher, pour aller les défendre. Donc moi, j'aurais quand même plutôt tendance à dire que c'est le plan de jeu qui n'était pas tellement bon. Et après... l'exécution aussi, effectivement, parce que on avait face aux Bills, t'avais quand même une ligne offensive des Bengals décimée. Tout le monde s'attendait à ce que Burrow soit en difficulté. On rappelle les blessures de Kappa, de Jonah Williams. Enfin, voilà, il y avait du monde quand même qui manquait sur cette ligne des Bengals. Et on se disait, ouais, ah, sur le papier, le pass rush de Buffalo, ils doivent en profiter. Et au final, ils n'ont pas été bons. Et si tu mets ça en plus ensuite, en parallèle de leur prestation quand même pas terrible en défense face à Skylar Thompson des Dolphins le tour d'avant, je trouve que voilà, pour moi, c'est en défense où ça pêche énormément sur ce match pour Buffalo. Et encore une fois, ce qui m'embête un peu, c'est que je trouve que ça fait 3 ans que c'est le cas en playoff. Et on en discutait avec d'autres collègues rédacteurs ou même des auditeurs sur les réseaux sociaux. Je commence à me demander, est-ce que aussi dans cette défense des Bills, il manque pas un ou deux playmakers de talent? Tu vois, un Aaron Donald qui vient de faire une différence, un Chandler Jones, un Micah Parsons. Est-ce qu'il manque pas un peu ce mec-là quand même dans cette défense, tu vois ? Un peu un...
C'est vrai qu'il manque peut-être un ou deux...
Beaucoup de bons joueurs, très bons joueurs, mais est-ce qu'il manque pas un peu vraiment le playmaker, le mec qui va faire les interceptions, qui va forcer les fumbles, les sacks ? Je sais pas, je me demande, est-ce qu'ils sont pas en train de payer une certaine homogénéité, mais manque de talent premium, on va dire ?
Je suis juste pour revenir sur ce que tu disais sur le fait qu'ils n'aient pas forcément défendu les courts et intermédiaires. Ça se traduit notamment dans les stats parce que la plus longue réception qu'ils prennent, elle est de 28 yards. alors qu'ils prennent plus de 400 yards quand même sur l'ensemble du match. Et au sol, la plus longue course, elle est de 16 yards pour Joe Mixon. Et il y a Joe Burrow qui a une course de 21 yards, donc un peu une anomalie. Mais donc, voilà, sinon, ils prennent pas en effet de gros cartons, quoi. Ils prennent pas de réception de plus de 28 yards, ils prennent pas de grosses courses non plus. Et pourtant, le cumul fait plus de 400 yards, donc en effet, ça s'est traduit un petit peu là-dedans. Ils ont bien protégé à la profondeur, mais ils ont été, ils ont pris des camions et des camions d'action, de yards, et qui se sont cumulés. Et surtout, encore une fois, ils ont pas été décisifs au moment de stopper les troisièmes tentatives, ce qui est aussi, ce qui est aussi dramatique. Parce qu'après et après bon il y avait le facteur neige mais elle est là pour tout le monde donc ça
oui.
c'est
et a priori Buffalo est peut-être même un peu plus habitué que Cincinnati un peu plus pas énorme
ouais c'est à peu près pareil non ils sont à peu près à la même altitude
en termes de température ouais mais j'ai l'impression d'avoir un peu plus d'image de Buffalo sous la neige tu
c'est
vois
vrai. C'est vrai bon je reviens juste quand même à l'attaque du coup de Buffalo. Je suis d'accord avec toi que la défense est plus décevante, mais c'est quand même difficile de t'en sortir avec 10 points, surtout vu le niveau d'attente qu'on a. Quoi.
Non, mais bien sûr, la défense, on l'a dit, l'attaque est aussi passée au travers. On a eu, j'ai presque envie de dire, on est habitué à un jeu au sol pas particulièrement présent, mais à la limite, c'est pas ce qui empêchait forcément Buffalo de mettre beaucoup de points. Mais c'est une performance pareille, offensive, qui finalement est un peu à l'image de ces dernières semaines. Hein. Du côté de Josh Allen, il y avait quelques trucs bien, mais il y avait aussi des pertes de balles. Il y avait un Stephon Diggs de moins en moins visible. Gabriel Davis n'était pas le receveur numéro 2 qu'on attendait. Donc voilà, tout ça a commencé un peu à se payer. Ouais, la défense, effectivement, n'était pas au niveau. C'est raté. Le plan de jeu, il y a des moments où on a vu que le plan de jeu, bah, c'était on fait courir nos receveurs des tracés en profond 20-30 yards plutôt que d'aller chercher des petits gains comme les Bengals faisaient. Ouais. Et ce côté un peu héros de Josh Allen leur a peut-être un peu coûté cher. Enfin, on lui a demandé de faire des grosses passes et finalement, c'était pas ce qu'il fallait forcément. Donc, plan de jeu mauvais, attaque mauvaise, joueur, exécution, ouais, ils sont franchement, ils sont passés complètement au travers des deux côtés du ballon. Enfin, c'est aussi simple que ça, tu vois.
C'est vrai que là encore, dans le style, il y a un contraste. Hein. Les touchdowns des Bengals, c'est sur des drives où il y a 9, 10 et 12 actions. Donc c'est vraiment c'était vraiment complètement opposé. Joe Burrow, on en a à peine parlé, 23 sur 36, 242 yards, 2 touchdowns, aucune interception, encore un grand match quand même de playoff pour lui, parce que on dit ils ont joué les cours intermédiaires, ils ont déroulé, etc. C'est quand même dans la neige, c'est quand même en playoff, il y a quand même de la pression, et ce mec là on dirait qu'il a peur de rien, quoi.
Non, effectivement, il a l'air d'avoir eu un vrai sang-froid, une vraie capacité à ne pas être particulièrement impressionné par ces matchs-là couperés. Il a l'air d'être fait pour ça, c'est assez indéniable. Et puis le plus incroyable, ça a été sa gestion de la poche, malgré les remplaçants, les linemen offensifs remplaçants qu'il avait devant lui. Alors, peut-être que ces linemen étaient un peu aidés par la neige, parce que les pass rushers adverses arrivaient peut-être un peu moins vite que prévu, ça peut-être joué un tout petit peu. Mais je l'ai trouvé absolument remarquable de sang-froid à ce niveau-là. Les lectures étaient bonnes, il a été appuyé par Joe Mixon, enfin, c'était vraiment le scénario idéal de A à Z. Et donc Burrow est assurément il n'y a pas de doute sur son niveau, c'est un cador et il est parti pour régaler la ligue pendant plusieurs années, sauf catastrophe. Mais non, c'était encore une fois une super performance. Et quand je vois à quel point Cincinnati était prêt et à quel point Buffalo est passé à côté, je me dis que c'est peut-être le moment de mettre du respect sur le coaching staff de Cincinnati, parce que franchement, le plan de jeu était parfait.
Enfin, c'est ça, il a bien joué le coup aussi. Hein.
Le plan de jeu était absolument parfait. Parce qu'un peu peur de cette ligne offensive, on joue des passes sur les côtés courtes, rapides. On exploite les brèches, et en défense, encore une fois, Lou Anarumo a préparé un plan de jeu de haute volée. Donc c'est peut-être en AFC, c'est peut-être l'équipe la plus chaude au meilleur moment.
Ah bah clairement, ils sont à 9 victoires de suite, je veux pas dire de bêtises, j'ai un doute sur le nombre parce que ça commence à faire beaucoup, mais ils sont très très chauds, ils ont gagné, alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 victoires de suite. Ça fait 10 victoires de suite. Donc non, ils sont bouillants, ils sont bien coachés. Franchement, c'est dans la lignée. On en pense quoi? Alors juste, je glisse ça sur bureau. Je fais un petit teasing. Dimanche, on fera le power ranking des quarterbacks dans le fauteuil. Je tiens à dire qu'il y en a un qui vient de passer au-dessus de l'autre dans ce match.
Écoute, ouais, ça peut paraître un peu de la surréaction suite au match, on pourrait dire ça, mais dans le fond, je suis pas loin de penser comme toi que Burrow est peut-être encore plus de choses que Josh Allen. Et vous en parlerez sans doute jeudi. Je me permets une aparté, mais je trouve que l'AFC nous offre la finale entre les deux meilleurs quarterbacks et la NFC peut-être la finale entre les deux meilleurs effectifs de la ligue. Vrai. On a peut-être. C'est, du coup, au Super Bowl, ça risque d'être vraiment opposition quarterback hero contre l'effectif le plus. Bon, bref. Mais non, tu me dis que Burrow est numéro 2, je suis pas choqué. Hein,
En plus, tu sais, c'est même pas forcément de la surréaction sur l'instant, hein, on vient de le dire. 10 victoires de suite et il a joué le Super Bowl l'an dernier.
Oui, non, mais on a presque tous oublié ça, hein, mais ils sont quand même finalistes en titre, hein, les Bengals.
C'est dingue. Hein. J'ai vu la stat, ils ont gagné 5 matchs de playoff en 2 ans. C'est autant que sur tout le reste de l'histoire de la franchise avant.
Ouais, il y a des mecs qui changent une franchise et Burrow a l'air d'en faire partie.
c'est incroyable. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pas parié, tu vois, l'an dernier, même après le Super Bowl, de dire l'an prochain ils sont de retour en finale de conférence.
Ah non, bah moi je pensais qu'ils allaient être vraiment en difficulté et le début de saison n'est pas facile, ils sont à 4-4 de mémoire en début de saison. Hein. Oui, c'est ils remettent un peu de temps à se relancer et ça repart, mais clairement.
Il y a eu cette opération de l'appendicite qui a dû le gêner un peu, mais c'est finalement, une fois qu'ils ont repris. C'était pas mal. Bon, là, les Bills, on va dire un petit mot pour les perdants, comme d'habitude en play-off. C'est quoi? C'est une saison décevante, du coup?
Oui, forcément. C'est une équipe qui était armée sur le papier pour aller au bout. Ils sortaient d'une défaite l'an dernier à ce tour-là déjà cruel. Non, c'est décevant parce que je pense qu'il n'y a que le titre qui comptait pour eux cette année. Ouais.
Et... qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait maintenant pour progresser?
Je pense qu'il y a quand même des retouches à faire sur la ligne offensive, peut-être un ou deux autres skill players en attaque, des rookies qui pourraient apporter un peu de sang frais, que ce soit à la course ou en réception. Et en défense, peut-être se trouver vraiment un joueur. C'est pas mon style préféré, mais tu vois, un genre de défenseur à la Marcus Peters ou à la Stephon Diggs qui va laisser passer des actions, mais qui en même temps a une vraie capacité à créer du turnover. Peut-être ce genre de profil un peu gambler, parieur, leur manque, et c'est peut-être vers ce genre de joueur qu'il faut aller.
Bon, en tout cas, moi j'ai un peu peur qu'il y ait un truc qui soit très dur pour eux, c'est qu'ils tombent aussi naturellement là derrière les Chiefs et les Bengals, et que même en. Enfin...
Il pourrait un peu ressembler aux Steelers des années Big Ben, qui étaient souvent derrière les Pats et Manning, et qui ont souvent perdu contre les Pats ou contre Manning et les Colts, et qui une fois ils sont allés au bout, une fois ou deux ont réussi à atteindre la finale, mais souvent bloqués par les autres un peu meilleurs, quoi.
Ouais, ça va pas être facile, hein, en tout cas. C'est pas assuré que les Bills version Josh Allen aient un titre. Alors maintenant, les fenêtres, elles sont plus longues parce que les quarterbacks jouent plus longtemps, mais voilà. En tout cas, je veux dire, ils ont pas l'air autant en position de force qu'il y a un an ou même au début de la saison, tu vois, où on les voyait vraiment.
Ouais, j'entends, ouais.
Parce que Stephon Diggs, je sais pas quel âge il a, mais tu vois, par exemple, c'est des choses qui vont se présenter vite. Il y a des carrières en dehors du quarterback, en fait, qui tournent vite en NFL. C'est Diggs, vrai. Il a 29 ans. Il était pas très content après ce match-là.
Donc, Jordan Poyer, il est free agent si je dis pas de bêtises. Tremaine Edmonds aussi. Enfin, il y a quand même quelques mecs en plus sur lesquels va falloir réfléchir. Donc non, c'est pas. Il y a une intersaison qui est pas si facile que ça pour Buffalo, compte tenu du résultat de cette année.
Bon. En tout cas, ce sera à surveiller. Ils seront quand même plutôt bons probablement l'année prochaine. Les 49ers 19, Cowboys 12. Est-ce que c'est un triomphe défensif des Niners ou une faillite offensive des Cowboys? On est encore dans les questions un peu...
Un peu des deux, forcément. Triomphe défensif des 49ers, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs à surveiller du côté de Dallas et il fallait pas tomber dans ce piège, j'ai envie de dire, des skill players de Dallas. Maintenant, oui, t'es obligé de parler des erreurs et des pertes de balles de l'attaque de Dallas qui mécaniquement coûte le match. Donc un peu des deux, mais encore une fois, hein, je pense qu'il faut vraiment pas diminuer la prestation des hommes de Demeco Ryans, qui continuent à se faire un petit CV pour la suite, quoi.
Faut pas diminuer la prestation des hommes de Demeco Ryans, parce que c'est la meilleure défense du moment, je suis totalement d'accord avec toi. Mais du coup, ça en dit aussi sur ce qu'on a avec cette équipe de Dallas. Les Niners ont marqué 19 points, dont 6 après des turnovers à toi. Donc en fait, là, tu dois gagner ce match si t'es propre et si tu fais un minimum. Et Dak Prescott a pas été capable de faire le minimum. Il a intercepté 2 fois. Il a 23 sur 37 pour 206 yards. Donc il fait pas un bon match. Et je trouve que ça donne un peu ce verdict qui est un peu terrible, hein, mais c'est un bon quarterback plus, mais qui peut pas porter l'équipe dans les grands matchs. Ça rappelle un peu l'époque Tony Romo, où ils sont coincés dans une sorte de cycle où des fois le mec va être très bon mais il va jamais être là pour aller au bout. Mike McCarthy est un coach moyen, tu vois, on dit que non, mais tu vois, on dit Bureau gagne, prend peu de pression avec une ligne en lambeau. Là, tu laisses ton quarterback prendre 17 pressions. C'est pas comme si t'étais pas au courant qu'il allait en avoir, tu vois, du côté de San Francisco.
Ouais, ils ont eu beaucoup de mal, notamment contre Nick Bosa, hein, qui a vraiment passé une bonne partie de sa soirée dans la poche.
Dans le backfield, Mais donc c'est pour ça, pour moi, je trouve que ça en dit beaucoup. Évidemment, ils savaient que ça allait être énorme en face, mais ça en dit beaucoup sur Dallas, du coup, sur l'impréparation du coach, sur le niveau du quarterback qui n'est pas aidé, évidemment. Je rappelle le scénario quand même, 6-3 Dallas dans le second quart, après un touchdown de Dalton Schultz et un énième extra point manqué par Brett Maher. 9-6 San Francisco à la pause, toujours avec des field goals, donc ça, c'est pas un gros match à scoring. 9-9 au début du dernier quart entre les deux équipes. Un touchdown de Christian McCaffrey pour le 16-9, un échange de field goal. Et puis Dallas qui punt, mené de 7 points à 2 minutes 05 de la fin sur 4e et 10. Alors évidemment, c'est hyper risqué, c'est dans leur moitié de terrain. Mais quand ils récupèrent le ballon, c'est trop tard, ils n'ont plus de temps mort. Et ça donne une dernière action digne des plus grands n'importe quoi qu'on a vu ces dernières années quand même, avec Ezekiel Elliott en position de centre, qui snappe le ballon pour Dak Prescott, qui fait une passe courte à Turpin, qui est immédiatement plaqué, game over. C'est terrible pour eux parce qu'ils perdent pas le match là-dessus, évidemment.
Non,
mais ça donne une dernière image qui est quand même un peu tragicomique, comme l'année dernière. On rappelle que l'an dernier, ils terminent leur match de playoff sur une action où ils ont pas le temps de snapper le ballon.
Oui, non, mais effectivement, ça donne encore un peu cette image d'une impréparation, on va dire, de Mike McCarthy qui a pas envisagé toutes les possibilités. Alors après, ils se retrouvent dans cette situation-là parce qu'il y a notamment une erreur du tight end Dalton Schultz, hein, qui réceptionne pas vraiment bien la balle. Alors que ça aurait pu arrêter le chrono un peu plus loin sur le terrain, ils n'auraient pas forcément joué cette action-là. Enfin bref, il y a eu plein d'erreurs sur ce dernier drive qui était déjà pas facile. Ils se sont en plus tiré des balles dans le pied. Donc ça ne faisait que confirmer l'impréparation, en tout cas pour l'attaque notamment. Et après, oui, obligé de te rejoindre sur Dak Prescott qui a été dans la continuité un peu de sa saison avec trop de pertes de balles. Et quand tu regardes les statistiques, il gagne... Les Cowboys ont seulement 30 yards de moins que San Francisco. Ils ont le même nombre de yards gagnés par action. Enfin, ils sont tout proches de San Francisco, mais les 7 points de différence, c'est vraiment les pertes de balles. C'est assez... Pour le coup, c'est assez simple à analyser, hein. Ils ont perdu les ballons, ils ont perdu le match. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors, il y a aussi des erreurs, hein, de Dak Prescott, qui a en plus pas été très bon dans la lecture. J'ai en tête notamment un... Il y a sur une action, il y a T.Y. Hilton qui part tout seul au touchdown, qui est absolument tout seul, et Dak Prescott le voit pas, il fait une passe en profondeur pour C.D. Lamb qui se fait la passe est déviée. Enfin, bref, mauvaise lecture du quarterback. Et c'est vrai que sur ce match-là, c'est difficile de pas mettre Prescott comme le flop de l'équipe et comme celui qui les fait perdre, parce que la défense s'était globalement bien débrouillée face à la quantité de skill players qu'il y a du côté de San Francisco, hein, parce que franchement, ils sont quand même... Enfin, la défense de Dallas sort une bonne prestation. Normalement, 19 points.
Son match, ouais.
19 points, ça doit te permettre d'aller remporter ce match. Hein.
Ah 19 points, et donc c'est ce que je disais, tu prends 6 points sur des turnovers, il limite quand même les deux interceptions de Prescott à 2 field goals. Ça pourrait être pire en plus.
Il
les aide bien. Hein. Donc moi, je vais ouvrir tout de suite sur la suite pour Dallas, comme ça ce sera fait, mais c'est le moment ou jamais pour Sean Payton. Hein. Pour moi, là, t'y vas, hein. C'est maintenant.
Oui.
Parce que il répondra aussi forcément par ricochet, il répondra à ta question Dak Prescott. Tu vois, si avec Sean Payton ça marche pas l'an prochain.
Ouais, non, mais bien sûr. En plus,
c'est ce que t'as, quoi.
Tu récupères pas. Alors, c'est peut-être moi qui ai une mauvaise truc, mais tu récupères pas des choix compensatoires quand t'as des coachs qui sont débauchés pour être head coach.
Non, je crois que c'est plus les managers.
Ah ouais, c'est manager,
j'avais
un
manager issu des minorités, etc.
Ah, j'avais un doute, ok, pardon. Alors, parce que je me disais, en plus, tu pouvais essayer de récupérer peut-être pour Kellen Moore, Dan Quinn, un tour en plus. Tu faisais venir un nouveau staff avec Sean Payton. Et puis
je
on
crois
partait.
C'est en lien avec les minorités.
Non, mais t'as raison, c'est peut-être en lien avec les minorités. Ouais.
Mais en tout cas, moi, je pense qu'en tout cas.
Oui.
Après, parce qu'en plus là, tu vois, on l'a pas évoqué, mais Prescott souffre aussi. Pourquoi ? Parce que le jeu au sol est moins présent. Mm. Il est complètement bouffé. Ils sont à 3,5 yards par course. Tony Pollard se casse le fibula.
Ouais. Donc, oui, c'est terrible pour les anciens. Free agent, c'était vraiment pas le moment de...
Donc voilà, je pense que c'est le moment, quoi. Ils se tournent autour, ils rêvent l'un de l'autre depuis des années. Peyton et Jerry Jones. Là, c'est le moment, quoi. Faut y aller. Hein. Il n'y aura pas d'autres occasions où tout le monde a le besoin à ce moment-là. En tout cas, si tu te réembarques avec Prescott et McCarthy et exactement la même configuration l'an prochain, tu te réembarques dans exactement la même chose.
Il y a des chances. Effectivement, faut sans doute un coach qui permette à Prescott de passer un palier. Ouais. Donc, Sean Payton, sur le papier, pourrait être ce profil-là. Ouais, je te rejoins.
Cela dit, on revient quand même à la défense de San Francisco pour lui rendre hommage et surtout et notamment à Fred Warner qui a quand même éclaboussé ce match de son talent, 9 plaquages au total, une interception, une passe déviée. On a un linebacker qui est très très spécial. C'était lui le MVP défensif de ce match, Raphaël.
Ouais, moi c'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans le résumé du match sur le site. Oui, c'est dans cette grande prestation défensive, Fred Warner est vraiment effectivement celui qui est le plus ressorti avec des actions vraiment clutch, une capacité à je trouve en plus vraiment sentir les bons coups et voir un peu à l'avance ce que l'adversaire allait proposer. Donc il était souvent sur le joueur adverse quand il fallait. Donc ouais, non, c'est un vrai capitaine. C'est peut-être même finalement. Nick Bosa est peut-être plus talentueux, mais je pense que Fred Warner est peut-être vraiment la pièce maîtresse de ce dispositif-là défensif parce que il anticipe et voit les choses comme peu de joueurs à son poste. Il est dans la veine de mecs comme Bobby Wagner, Luke Kuechly, il est dans cette veine-là, quoi.
Donc, toute l'association Fred Warner, Aziz Al-Shaïr, Dre Greenlaw.
Ouais, c'est pas mal. Hein. Non, mais de toute façon, ce front seven est. Enfin, je trouve aussi que si les 49ers en sont là, c'est, malgré des profils sur le backfield défensif pas les plus impressionnants, c'est parce que tu as un front seven qui permet au backfield défensif de jouer, d'avoir moins de temps à couvrir l'adversaire, d'être un peu plus serein. Donc non, bien sûr, ce front seven, c'est avant tout pour ça que San Francisco en est là cette saison.
On l'a dit, ça a fait son match du côté de la défense de Dallas. Ça veut dire que Brock Purdy a un peu peiné. Il était à 19 sur 29, 214 yards. Qu'est-ce qu'on retient pour toi ? On retient il a eu du mal sous pression ou on retient il n'a pas fait d'erreur quand même.
Écoute, moi j'aurais envie de dire il n'a pas fait d'erreur. C'était principalement parce qu'il a du mal sous pression, mais en vrai, comme beaucoup de quarterbacks de toute manière dans la ligue, je ne l'ai pas trouvé catastrophique non plus sous la pression. Justement parce qu'il n'a pas fait d'erreur sous la pression. Il a raté quelques passes. Dak Prescott, ses deux interceptions, elles sont lancées parce qu'il est sous pression, tu vois. Et c'est quelque chose que Brock Purdy n'a pas fait sur ce match, en tout cas. Donc, globalement, c'était correct. C'était correct. Après, est-ce que ça sera suffisant ? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, quoi qu'il en soit, c'est que Kyle Shanahan semble lui faire vraiment confiance. Il n'hésite pas à lui faire lancer des passes en fin de match, alors qu'on pourrait dire ils vont jouer la course pour tuer le chrono. Non, ça a fait lancer Brock Purdy parce que tu sens que Shanahan a vraiment confiance dans ce qu'il peut faire. Et c'est important parce que je pense que tu peux quand même avoir un game plan offensif plus établi et plus intéressant si tu as confiance en ton quarterback et en ce qu'il peut faire que si tu joues avec le frein. Donc à voir, la belle histoire Purdy continue, je sais pas jusqu'où, mais en tout cas
ouais, comme tu dis, il fait pas d'erreur, donc c'est déjà ça. Après ça reste les 49ers qu'on connaît au sens où c'est une équipe très équilibrée avec 32 courses pour 29 passes. Voilà, là, il n'a pas un ratio qui est délirant. Ils n'ont pas un gros total de yards. Encore une fois, c'est une victoire qui est quand même avant tout défensive. Ouais. Évidemment, il n'aurait pas fallu qu'il y en ait beaucoup plus à faire. Même le jeu au sol, quand même, n'a pas été hyper saignant. Il a été bien stoppé aussi par Dallas. Ils sont qu'à 3 yards et demi par course. Christian McCaffrey est un petit peu diminué par une douleur au mollet. Alors lui assure que c'est pas très grave, mais ce sera peut-être à surveiller pour la semaine à venir et éventuellement la suite. Mais c'est vrai que même ce jeu au sol, Raphaël, s'il avait été un peu plus performant, ils auraient peut-être creusé un peu plus l'écart peut-être.
Oui, sans doute, ça aurait aidé San Francisco à mettre un peu plus la main sur le ballon parce qu'ils l'ont pas tenu tant que ça en tout cas. Ouais. Je réfléchissais, notamment aussi Deebo Samuel, parce que des fois on sait que Deebo Samuel, quand il est utilisé à la course, ça fait des gros gains, ça surprend un peu, et c'est vrai que là ça n'a pas beaucoup fonctionné, en tout cas face à Dallas, qui a fait une vraie belle performance sur la ligne défensive. On parlait de Micah Parsons, mais il y a eu aussi des Marcus Lawrence qui a fait un très gros match, mais je te rejoins, le jeu au sol. Après, on sait que dans les équipes de Shanahan, le jeu au sol, ça peut revenir d'un match sur l'autre. Ça m'inquiète pas outre mesure non plus, tu vois.
Oui, on peut avoir une finale de conférence à 250 yards au sol pour San Francisco et 250 pour Philadelphie.
Oui, ça pourrait ça pourrait y ressembler. Même si je pense que les défenses vont un peu plus se stopper que ça, mais.
Oui, je tease aussi. Tu parlais de l'émission de preview. À mon avis, on va avoir une finale de conférence un peu plus offensive que l'autre. Il pourrait que ce soit un peu plus défensif du côté de la NFC quand même, sur les matchs. Bon, il y a beaucoup de qualité. On est impatient d'y être. Vous voyez, on déborde déjà sur les previews parce que il y a vraiment deux finales de conférence qui vont être assez exceptionnelles. En tout cas, les Niners sont à 12 victoires de suite. On est sur les dynamiques. Cherchez pas. 10 victoires de suite pour les Bengals, 12 pour les 49ers. Vous trouverez pas mieux dans chaque conférence. Et encore une fois, ça va rendre ces finales de conférence palpitantes. Raphaël, est-ce qu'il y a un autre mot à dire sur la suite maintenant pour Dallas? On parlait de Sean Payton, on parlait de tout ça. Du côté de la défense, il faut peut-être espérer pas perdre Dan Quinn du coup.
Effectivement, la première façon d'interrogation là, ça va être ce que décide de faire Jerry Jones sur le banc, parce que ça a une implication pour la suite de manière assez forte. C'est vrai que Dan Quinn, depuis qu'il est arrivé coordinateur défensif, a vraiment fait progresser cette escouade globalement. Alors il y a eu quelques bons coups à la draft qui aident, mais je pense que ça aide quand t'as un joueur comme Micah Parsons, ça permet au coordinateur défensif d'imaginer 2-3 choses intéressantes. Mais en tout cas, il a vraiment apporté à cette escouade et ça serait dommage pour Dallas de le perdre.
Ça va être compliqué.
Honnêtement, je pense que là, Dallas, c'est avant tout une question de coaching, parce que je vois pas énormément dans l'effectif, je vois pas énormément de marge de progression. Il y a toujours des petites touches par-ci par-là, un receveur numéro 2 un peu plus fort, un machin, mais c'est vraiment du détail, quoi.
Bah, c'est là où il faut bien drafter, quoi. C'est-à-dire que vraiment pour apporter, il faut bien drafter, mais il y a des enjeux énormes sur le banc, parce que oui, leurs coordinateurs sont convoités. Et qu'est-ce que tu fais si les coordinateurs se barrent mais que t'as toujours Mike McCarthy? Là, c'est vrai que ça va être, parce que il y avait l'histoire en plus que Sean Payton, il voulait arriver en package avec Vic Fangio.
C'est vrai qu'il y avait ça
dans cette nouvelle équipe. Donc dans ce cas-là, ça t'amortit quand même un petit peu la perte, même si le système est pas le même avec Fangio.
Oui, mais c'est vrai que ça t'amortit un peu. Fangio a assez prouvé en coordinateur défensif pour te dire que normalement c'est pas ce qui va être le plus compliqué à gérer derrière, mais bon.
Bon, et puis là, imagine, ça signe Peyton Fangio et ça se plante encore l'an prochain, le psychodrame à Dallas. Cette franchise est un psychodrame permanent. Donc voilà. En tout cas, on sait qu'il se passera des trucs pendant l'intersaison, après la saison, la saison prochaine. Ça va être mémorable. C'est comme ça que se termine l'épisode 578. C'est ça que je pensais moi pendant l'intro tout à l'heure, Raphaël. Tu te rends compte, on est déjà à 78 épisodes cette saison, rien que cette saison, parce qu'on a fait la 500e en septembre.
On a un peu devenu des tricheurs aussi sur les numéros, mais
pourquoi?
Non, c'est vrai, pas tricheur. On fait plus de podcasts, c'est vrai.
On fait plus de podcasts.
C'est vrai que c'est pas de la triche. Non, mais t'as raison.
Parce que si tu penses par rapport à la durée de l'émission, faut quand même se dire qu'au tout début, on en faisait qu'une par semaine et elle faisait 45 minutes.
C'est vrai.
Monter les durées après coup, mais
c'est vrai qu'en plus, on fait même pas de découpage de notre émission.
Ah non, on met pas les trucs en 40 extraits de 3 minutes là.
Salut Christophe.
On te voit Christophe Ondelat avec tes la phrase choc, le teasing, le machin. Non, on fait pas ça. Nous, on reste quand même sur des émissions à peu près complètes. Bon, c'était la 578. On se retrouve donc dès demain. Raphaël, tu disais jeudi, mais en fait la preview va être en ligne dès mercredi. Parce qu'on est hyper impatient, donc on va la mettre dès mercredi. Voilà, Victor était libre, on enregistre.
Il y a un petit point d'interrogation quand même. Tu me diras, je pense que ce point d'interrogation serait le même jeudi, mercredi. Ouais, je pense que.
Ouais, j'y ai pensé aussi avant de définir l'enregistrement, mais je pense qu'on n'en saura pas beaucoup plus d'un jour à l'autre. Hein, donc voilà. La preview dès mercredi en podcast. Jeudi, ce sera un replay du fauteuil que je vous avais pas encore mis tout de suite, mais je voulais garder pour jeudi pour étaler un truc par jour. Donc jeudi, ce sera le replay de la séquence du podcast où on a fait les trophées de fin de saison. Vendredi, vous aurez de la draft et samedi, une émission rétro qui n'est pas encore définie. Et je le rappelle encore une fois cette semaine, mais je crois que le message est passé parce que vous étiez nombreux. Le fauteuil, c'est à 19h30 pour les finales de conférence, comme la semaine dernière. Pour le Divisional Weekend. Et d'avance, je vous le dis, le jour du Super Bowl, a priori, ce sera 21h, comme on avait fait les années précédentes. On fera un Super Bowl giga méga rallongé en vue du Super Bowl. Voilà pour cette émission. Merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Nico, G-Truc, Captain JF et Samy, cette semaine, se sont ajoutés à la liste. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Et on vous retrouve donc dès demain sur les antennes de TDA. Merci encore, Raphaël.
Eh ben, merci à toi.
Et à très bientôt, j'espère.
Adios.
Adios. Bon, vous ne reverrez peut-être pas Raphaël cette année. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.